temps, hein, finissez vos conversations. Alors, j'ai appelé le... Merci, monsieur. J'ai appelé le service des apparateurs pour qu'ils passent. C'est là, de toute évidence, on va avoir des difficultés à avoir les salles. Je ne sais pas ce qui se passe.
Vous avez, alors, plusieurs trucs. On va faire un point sur le déroulé du coup du semestre, expliquer un peu comment ça va fonctionner. Vous avez soit qui a déjà été distribué en amphi, soit sur le bureau à la pause, hein, pas maintenant. Le plan de cours et les deux premières fiches de TD, ils ont vraisemblablement pas pu m'imprimer l'ensemble des fiches, donc je viens d'envoyer un mail pour savoir quand est-ce qu'on aurait la suite, mais vous avez donc à minima les fiches 1 et 2 en papier et le plan de cours. Par ailleurs, j'ai enfin réussi à me connecter sur le campus. Est-ce que certains ont essayé d'y aller? Est-ce que certains peuvent le faire là? De vous connecter sur les campus, juste voir ce qui fonctionne. Alors, une seconde.
Ouais. J'ai pas les 4 écrans là. Et du coup... Ouais. Merci. Débrancher, rebrancher, je l'ai fait déjà. Mais...
C'est où les plans de cours?
Ils sont dedans.
Ça commence à... Celui-là, c'est le seul qui a récupéré.
Mais franchement, déjà, le génie qui nous a fait des écrans splittés, c'est... Pardon.
Ça fait ça en fait à chaque fois qu'on essaie de se connecter sur le comme si la page n'existait pas.
Bon, je vais faire un mail au service. Merci beaucoup, madame. Il s'affichait pas tout à l'heure.
En fait, c'est vraiment à son bon vouloir.
Génial, vous me sauvez. Merci beaucoup. Un bon courage, hein, parce que là...
Bon, excusez-moi. Donc, je disais, vous avez... Alors... Une de vos camarades vient gentiment de me signaler que visiblement il y avait un problème, alors notamment avec Safari. Essayez de changer de navigateur. Avec Chrome ça marche, moi chez moi. Essayez avec Chrome et dites-moi, vous me direz à l'interco, mais oui, ça marche pas avec Chrome. Bon, alors, faites-moi penser à la pause, que l'un de ceux qui viennent me poser une question à la pause me fasse penser à envoyer un mail au support du campus tout à l'heure, là. Et je vais leur dire que vous ne pouvez pas y accéder. Bon, bah donc vous êtes ravis d'apprendre que les fichiers vous attendent sur eCampus. Donc je vous ai posté, et je vais faire pareil derrière. Alors évidemment, autant je vous ai dit, je ne veux pas que les fichiers circulent en dehors de l'amphi, autant si certains exceptionnellement arrivent à se connecter et que vous avez un groupe Facebook, etc., si c'est un groupe fermé, allez-y poster. Ça ne pose aucun problème, au contraire. Donc vous avez 8 fichiers audio, que j'en fais un par heure et que vous vous souvenez, la première heure, l'enregistrement a planté. Donc vous avez 2 fichiers pour le premier cours et 3 sur les suivants. Là, je suis en train d'enregistrer aussi. Donc vous aurez à partir de maintenant, toutes les semaines, 3 fichiers audio et les slides correspondantes au cours qu'on a fait. Je les mets au compte-goutte. Donc là, tout de suite sur eCampus, vous avez le plan de cours, la totalité des fiches de TD, pour le coup, pas que les 2 premières. Et puis derrière, les fichiers audio... Donc des 3 premiers cours. Sur le fonctionnement des TD, on va prendre 5 minutes. Donc prenez vos fiches de TD, je vous en prie, prenez pas 40 supports, ça sert à rien. Prenez-en un pour vous, un pour le copain qui éventuellement est absent, mais ça sert à rien d'en emmener 50. Attendez, je laisse le temps à ceux qui... Attendez, j'ai un gros gros doute là. Épisodiquement, je change un truc en entier, mais enfin, c'est pas dramatique, et vous avez la trame générale en tout état de cause. S'agissant des fiches de TD, alors, je vous dis, je viens d'envoyer un mail pour savoir quand est-ce qu'on aurait les autres fiches, parce que j'aime bien que vous ayez tout d'un coup en état. D'abord, je veux que tout le monde lise absolument nécessairement les propos introductifs au début, avant la première fiche de TD. Vous avez 2-3 pages, je ne sais plus ce que j'ai fait. Ouais, 3 pages de propos introductifs qui vous expliquent comment les TD vont fonctionner. Pas maintenant, ne le lisez ça pas maintenant, mais là, en rentrant chez vous ensuite, à la pause, comme vous voulez, vous me lisez attentivement les propos introductifs. Plusieurs choses. D'abord, j'ai décidé de ne pas organiser de galop d'essai. Je m'explique. C'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle, c'est une façon de fonctionner qui est différente depuis 2 ans. En fait, on constate avec mon équipe que peu ou prou, les notes de galop d'essai, elles sont équivalentes au niveau global de l'étudiant. Ça ne change pas drastiquement du tout. Les moyennes qui restent similaires, avec des écarts similaires aussi. C'est un enfer à organiser. Parce que comme vous avez cours tout le temps, en fait, je suis à peu près obligée de mettre mon galop le samedi après-midi. Et donc, il faut que je gère entre ceux qui ont un travail salarié, qui ne peuvent pas s'absenter, et puis ceux qui ont poney, compétition de dessin, etc. Voilà. Donc, c'est l'enfer. Donc, plutôt que vous faire louper le poney, etc., et plus sérieusement, ceux qui voilà, sont en difficulté... Ah non, mais vous ne pouvez pas savoir. Certaines années, j'ai eu des mots des parents qui m'expliquait que c'était... Alors, c'est mignon, hein, mais c'est parfois un peu étonnant. Donc, pour plein de raisons, parce que mon équipe pédagogique a aussi un emploi du temps particulièrement chargé, je vais vous expliquer ça dans un instant, pour plein de raisons, il n'y aura pas de galop d'essai en intro. Vous aurez toutes les semaines du travail à faire. Travail qui sera ramassé de manière non volontaire. C'est-à-dire, toutes les semaines, mon chargé de TD, ma chargée de TD en fonction de votre groupe, fait l'appel et à l'issue de l'appel dit « je veux les copies de tac, 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 tac ». Alors, plusieurs trucs. D'abord, il n'y a pas de joker, ça n'existe pas. Ben, j'avais pas envie de travailler, donc cette semaine, je n'ai pas fait. Si exceptionnellement, une fois dans le semestre, vous n'avez pas de quoi remettre une copie, vous le dites au moment de l'appel. Vous ne jouez pas la carte de « allez, je croise les doigts, ça ne va pas me tomber dessus, on est suffisamment nombreux », parce que si vous faites ça et que le chargé de TD veut vous ramasser et qu'à ce moment-là, vous l'indiquez, c'est zéro. Et là, il n'y a pas de discussion de « ah, oh, j'ai oublié, j'ai... » Quand on fait l'appel, si vous n'avez pas travaillé, vous dites que vous n'avez pas de travail à remettre une fois et vous donnez un motif à votre chargé de TD, vous justifiez le fait que vous n'ayez pas travaillé. Et en fonction de la légitimité du motif que vous invoquez et du travail que vous fournissez par ailleurs, le chargé TD estime si c'est une excuse valable ou pas. Voilà. Ce qui veut dire aussi que mon imprimante est morte, mon main, je vous l'envoie après le TD, etc., tout ça, c'est niet. Si vous n'avez pas une copie papier, pas une clé USB à brancher sur son ordi, une copie papier à remettre à votre chargé de TD en début de séance, c'est comme si le travail n'était pas fait. Donc vous vous assurez en amont que vous êtes en capacité de remettre le travail que vous avez fourni à votre chargé de TD. si vous avez envie de jouer au petit malin et de faire un ChatGPT ou aller récupérer des copies en ligne, etc., et qu'ils s'en rendent compte, ils s'en rendront compte, je vous l'annonce tout de suite, c'est zéro. C'est pas, ah ouais, mais ChatGPT, c'était que 30-40% de ma copie, le reste, c'est... C'est pas grave. En fait, à partir du moment où il y a de la fraude, parce que ça s'appelle comme ça, le pourcentage de fraude m'est parfaitement indifférent. Donc vous trichez, vous prenez le risque, prenez pas vos chargés de TD ni pour des dinosaures ni pour des crétins. Si vous arrivez à frauder, ils vous coinceront. Il y a toujours un ou deux petits malins qui passeront au travers des mailles du filet, mais je vous déconseille. Vous voyez dans les propos introductifs que l'air de rien, la note du devoir maison, c'est le quart de la note. En fait, votre note, elle va se calculer sur une interrogation qui aura lieu au milieu du semestre. Je vous préciserai ça la semaine prochaine. Une note de devoir maison. Vous serez tous ramassés au moins une fois obligatoirement. Le chargé de TD n'a aucune obligation de re-ramasser. Et je le leur déconseille, ça vient de moi. Parce qu'en fait, vous êtes nombreux et que s'ils s'amusent à ramasser tout le monde 2, 3, 4 fois, ils s'en sortent pas. Par contre... Je vois déjà venir les petits malins qui se disent « Moi, j'ai été ramassé en séance 1, donc je ne travaille plus du semestre parce que je suis tranquille, ça y est, c'est bon, mon tour est passé. » Les chargés de TD sont parfaitement légitimes à se dire à une séance bah, « Je ramasse tout le monde. Je vérifie juste que tout le monde a bossé, je ramasse tout le monde, je jetterai un œil sur les copies de l'ensemble du TD et je ramasse. » Et si vous n'avez pas bossé, même si vous avez déjà été ramassé avant, c'est zéro. Ça paraît un peu rude, les annonces de règles comme ça. Mon objectif, il est simple, c'est que tout le monde travaille au long du semestre. Le bachotage en intro, vous allez vous planter. Voilà. Si vous ne bossez pas tout au long du semestre, vous vous planterez. Je vous confirmerai ça quand on aura un peu avancé, mais il y a 9 chances sur 10 que l'examen, ce soit une dissertation. Des sujets de dissertation à faire, là, vous en aurez beaucoup à préparer. Donc, c'est des formes d'entraînement. Si vous ne le faites pas, vous vous planterez. Une dissertation juridique, ça s'apprend. Il y a des clés à avoir, vous avez une fiche méthodologique dans la fiche de TD, etc. Et il y a des choses à connaître. Si vous ne vous entraînez pas, vous allez vous planter, c'est une certitude. Donc, servez-vous des TD comme des espaces d'entraînement, d'approfondissement, etc. On en a déjà un peu parlé, notamment sur le respect qui est dû entre vous. Il est évident que le respect dû à mon équipe pédagogique est le même que celui à mon égard. C'est pas vos potes, c'est pas vos copains, on les appelle pas par leur prénom, on se tutoie pas, on... voilà. C'est des enseignants. Je tairai le nom pour préserver l'identité, mais l'un des membres de l'équipe pédagogique a été dans mon amphi en intro il y a maintenant plus longtemps que ce que je voudrais pouvoir dire. Mais il était à votre place, il a été étudiant malin en intro avec moi. Il a poursuivi le cursus et maintenant il est chargé de TD. J'espère qu'il y en a certains parmi vous qui feront pareil et qui se destineront à ça. Mais en tout état de cause, évidemment, c'est un enseignant pour vous et donc vous le traitez comme vous traitez tous vos enseignants. Donc, une note d'interro, donc ce sera une interro de cours hein, pour le coup, en TD, parce que c'est plus facile à organiser, une donc qui vaudra sur 20, une note sur 10 de devoir maison et une note sur 10 de participation. Alors, ça fait une note sur 40, on la divise par 2 et on a la note de TD. Hein. La note de participation. Je sais que pour certains, le fait d'évaluer la participation orale, c'est cauchemardesque. Que on n'est pas tous logés à la même enseigne là-dessus et que la timidité, pour certains, elle peut être un peu dévorante en TD. C'est pour ça aussi que je veux que les ambiances soient agréables, que mes chargés de TD se moqueront jamais de vous, que c'est pas l'idée du tout. Surtout, n'arrivez pas avec la boule au ventre en intro en TD, ça n'a aucun sens. Voilà. On n'est pas là pour se moquer de vous, mais il faut absolument que vous preniez la parole. Alors, vous allez la prendre de manière spontanée, en levant la main, évidemment, mais volontaire, disons. Et je vous y encourage vivement. Et puis, vous serez interrogé aussi de manière un peu aléatoire. Voilà. Vous êtes timide et vous bafouillez. Bah, c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. c'est la forme. Voilà. La forme, il va falloir la travailler. Ça n'enlève pas la pertinence du fond. Et mes chargés TD, ils savent faire la part des choses. Il vaut mieux un étudiant qui bafouille un peu parce que l'oral, c'est l'horreur pour l'instant, mais qui tient des propos pertinents, qu'un étudiant qui va vouloir prendre la parole en permanence pour montrer qu'il est à l'aise et qui ne dit rien au final. Il n'y a rien derrière les propos. Ça, ça ne sert à rien. Prendre la parole pour prendre la parole alors qu'il n'y a rien, juste pour vous dire, en fait, plus je lève la main et plus ma note augmente, là aussi, pour le coup, les chargés TD savent faire la part des choses. Donc, prenez la parole pour des choses opportunes, même des questions, évidemment, mais n'en faites pas un automatisme non plus. Pour les timides, courage. Vraiment, je le redis, mais parce que je sais de quel point de vue je parle. C'était l'horreur pour moi. Si vous m'aviez dit en première année que je serais de l'autre côté, alors j'espérais, mais sans avoir complètement conscience de ce que c'était que de s'adresser à 300 étudiants, c'était l'horreur. Je n'ai pas ouvert la bouche pendant des dizaines de séances de TD. Mais du coup, quand vous vous trouvez confronté à la nécessité de prendre la parole dans un cadre pro, bah vous regrettez de ne pas vous être entraîné dans des petits effectifs. Il faut le faire. On ne pratique pas suffisamment l'oral, il faut le faire. Et si vous avez envie de monter des groupes de travail entre vous pour vous entraîner à prendre la parole, c'est une excellente idée. Voilà. Faites ça avec des gens qui sont bienveillants, qui vont être honnêtes tout en n'étant pas durs sur le regard qu'ils vont porter sur vous. Et entraînez-vous, filmez-vous. Voilà. Alors, on se sent débile, hein, je suis bien d'accord. Et vous vous filmez. Et vous voyez, et vous allez relever des tics de langage et des trucs, et vous progresserez comme ça. Faites du théâtre. Pour les plus... Ouais, ça fait marrer à chaque fois, mais je suis à peu près certaine que c'est efficace. Pour les plus timides, prenez un cours de théâtre une fois par semaine. Voilà. Et je vous promets que ça va venir. C'est un entraînement à prendre. Mais encore une fois, le droit, c'est de l'oralité aussi. Si vous ne maîtrisez pas ça, il y a un moment où vous allez vous coincer. Indépendamment des qualités que vous aurez sur le fond. Donc ça, ça se bosse, aisément. Et ça s'acquiert. Voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas là-dessus. Donc, je l'ai dit, par ailleurs, à l'égard de mon équipe, j'échange très souvent avec eux. Donc, je sais un peu comment se passe les TD. Je vous ai dit, si jamais vraiment, ça n'arrive jamais. Mais dans un groupe, ça se passe mal. Je me laisse la possibilité de venir assister moi au TD. Et généralement, quand je viens, c'est pas tellement pour être sympathique. Parce que me rajouter une séance de TD sur mon planning, déjà, ça me rend ronchon. Donc, j'arrive pas dans les meilleures dispositions. Donc, si besoin est, je viendrai. Mais si je viens, c'est qu'on m'a signalé des choses qui ne vont pas. Personne n'y a intérêt, vraiment. Je ne veux pas qu'on se moque. Jamais. Voilà. Parce qu'encore une fois, croyez-moi, tout le monde peut se moquer. Hein. Vous trouvez toujours quelqu'un au-dessus qui aura plus de connaissances ou de maîtrise de l'oral pour se moquer de vous. Toujours. Donc, au contraire, essayez de faire en sorte que ça se passe bien. C'est pas la foire pour autant, mais on est en capacité maintenant de considérer les espaces de TD comme des espaces où vous êtes en confiance, et plus vous serez en confiance, et meilleur vous serez sur la prise de parole, sur le déroulé des TD. Vous avez, donc oui, je ne l'ai pas dit, mais vous aurez des corrections des travaux que vous avez à faire chaque semaine, mais les corrections, elles se décalent d'une semaine. C'est-à-dire que vous avez un travail à faire pour la séance 1, certains vont se faire ramasser, le corrigé interviendra en séance 2. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que si j'en fais le corrigé la semaine où vous êtes ramassé, et ben ceux qui ont le TD le lundi filent les corrections à ceux qui ont le TD le vendredi, et donc mon équipe qui a le TD en fin de semaine corrige les corrections des copains en face. Donc on ne fait pas comme ça, vous aurez toutes vos corrections mais qui sont décalées d'une semaine. Si vous regardez la fiche 1 en page 5, vous voyez qu'il y a plusieurs trucs. À chaque fois, vous aurez les mêmes rubriques. Les thèmes de la séance, donc ce qu'il faut avoir travaillé, et encore une fois, l'intérêt d'avoir eu deux cours d'avance, c'est qu'on a considérablement d'avance sur les TD là maintenant. Donc les thèmes de la séance, la liste des documents que vous lisez, s'il vous plaît, ils ne sont pas là pour faire joli, et que je vous approfondirai évidemment en TD, et la rubrique travail de l'étudiant, c'est ça qui est ramassé. La rubrique travail de l'étudiant, elle est ramassée chaque semaine pour certains. manuscrit ou saisi sur l'ordinateur, peu m'importe. L'important, c'est que j'ai un support physique. Je ne veux pas de clé USB. Et après, très souvent, vous avez une rubrique en italique en dessous avec ce qu'on vous explique sur ce qui va être fait en séance, un des éléments faits en séance. Mais donc, ce qui vous intéresse, vous, c'est la... Enfin, ce qui est ramassé en TD, c'est la rubrique travail de l'étudiant. Ce qui veut dire que vous avez un travail à faire pour la première séance, là, à ramasser. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour la première séance, c'est juste deux questions. Il n'y a pas de fiche d'arrêt, il n'y a pas de dissertation, il n'y a pas de cas pratique. Vous avez juste deux questions auxquelles il faut répondre. Ne venez pas me poser la question qui est légitime par ailleurs, mais de qu'est-ce que c'est la quantité qu'on attend ? En termes de est-ce qu'il faut une page, deux pages, etc. Je suis incapable de vous donner une réponse pour une raison simple, c'est que certains de parmi vous sont très synthétiques, très bien. C'est-à-dire qu'en peu de mots, ils vont à l'essentiel et tout ce qu'on attendait est là. Certains, et c'est normal aussi, ont besoin d'une plus grande amplitude pour expliquer. Donc, ma réponse à cette question-là, c'est faites-vous un brouillon, listez tous les éléments qui vous apparaissent essentiels pour répondre aux questions, et en fonction, vous construisez. Si c'est 30 lignes, c'est 30 lignes. Si c'est 2 pages, c'est 2 pages par question. Voilà. Je ne saurais pas quoi vous dire. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas 5 lignes par réponse. Voilà. On attend un peu plus de vous. Mais ce n'est pas 3 copies doubles non plus. Évaluez-vous là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus sur le fonctionnement des TD ? Ok. Bon, de toute façon, on se voit hein, régulièrement. Si vous avez des questions, vous nous dites, on en reparle. Et puis, aucun de vous n'a réussi à se connecter à eCampus, là ? Qui n'a pas essayé ? C'est pas un jugement, c'est juste pour savoir s'il me reste des possibilités. Bon, alors ceux qui peuvent, à la pause, essayez juste de vous connecter et comme ça vous me confirmez. Et j'écrirai au service en espérant qu'ils nous trouvent une solution avant novembre. Je sais même plus où j'en suis. Hop. Ok. Donc, je vous donne l'info juste si vous voulez le noter. Là, sur le fichier du cours d'audio aujourd'hui, le fichier audio du cours sur le premier cours, on commence le cours à 22 minutes. Si vous voulez vous épargner tout ce qu'il y a en amont, c'est pas inutile de le savoir. Ok, donc on avait terminé lundi sur les questions d'inventaire des sources. Là, on a tout listé. Et maintenant, c'est ce que je vous expliquais, l'enjeu, ça va être d'abord de comprendre la hiérarchie des normes, ça va faire l'objet d'un grand A, et ensuite, et c'est surtout ça qui est décisif, d'identifier les modalités de contrôle de cette hiérarchie. Donc d'abord, dans un grand A, je vais vous expliquer relativement brièvement, parce qu'en fait, on a déjà les clés, mais relativement brièvement ce que c'est que la hiérarchie des normes, et ensuite, on passera aux différentes modalités de contrôle. Alors, la hiérarchie des normes, historiquement, elle vient d'un ouvrage de Kelsen, ça s'écrit K-E-L-S-E-N, K-E-L-S-E-N, qui était un juriste austro-américain dans les années 30. Son ouvrage de référence, là, donc c'est la théorie pure du droit, c'est le nom de l'ouvrage. La théorie pure du droit, qui est un ouvrage de 1934, si vous voulez à peu près situé dans le temps. Et donc, c'est dans cet ouvrage, la théorie pure du droit, qu'on trouve la systématisation de cette hiérarchie. C'est pour ça que quand on vous parle de la hiérarchie des normes, vous trouvez souvent l'expression « pyramide de Kelsen ». Voilà. C'est parce que c'est le nom de l'auteur à laquelle elle est attribuée la première fois. Comment est-ce qu'on peut résumer ? Donc, d'abord, vous voyez bien les différents blocs qu'on a déjà identifiés. Il y a un dernier bloc en bas qui est le bloc des actes administratifs résiduels. Je vous le mets juste pour que votre pyramide soit complète, mais en réalité, nous, on se concentre sur les quatre blocs. Réglementaire, légalité, conventionnalité et constitutionnalité tout en haut. L'idée de Kelsen, centrale, c'est de se dire qu'il faut penser une structure hiérarchique du droit. Que finalement, toutes les normes ne se valent pas. Elles ne se valent pas, mais elles coexistent dans un écosystème un peu global. comment est-ce qu'on organise cette coexistence d'un point de vue hiérarchique? Alors, il y a plusieurs idées, j'ai essayé de vous mettre là encore au tableau. L'idée, c'est que la norme supérieure a toujours, pardon pour la redondance, hein, mais c'est comme ça que ça s'expose, a toujours une autorité plus grande que la norme inférieure. Quand vous regardez la pyramide, chaque bloc du dessus a une valeur plus grande que le bloc ou les blocs en dessous. Voilà. Et donc, ça veut dire deux choses. D'abord, ça veut dire que la règle inférieure, donc celle qui est dans un bloc en dessous, ne peut pas empiéter sur le terrain de la règle supérieure. Et surtout, d'autre part, qu'elle doit s'y conformer. Vous ne pouvez pas avoir une règle de rang inférieur qui dit le contraire de ce que prescrit une règle d'un rang supérieur. Il y a une espèce d'interdépendance dans la théorie de la hiérarchie des normes, une espèce d'interdépendance, c'est-à-dire que la validité de la norme inférieure, elle dépend de sa conformité à la norme supérieure. Voilà. Et ça s'organise comme ça, par étage. Donc, le bloc de conventionnalité, ce qu'on appelle le bloc de conventionnalité, c'est-à-dire encore une fois, les traités et les accords, le droit de l'Union européenne, le droit du Conseil de l'Europe. Ce bloc de conventionnalité, il doit respecter ce qui est prévu dans le bloc de constitutionnalité, mais par contre, il prime sur le bloc de légalité, sur le bloc réglementaire. Le bloc de légalité, il doit respecter à la fois le bloc de conventionnalité et le bloc de constitutionnalité, mais il prime sur le bloc réglementaire. Et en fait, à chaque fois, la logique, elle se fait comme ça par étage. Donc, vous voyez que dans l'absolu, alors certes, c'était un peu fastidieux, mais l'étude de la typologie des règles dans le paragraphe premier, ça a été d'une utilité extrême parce que ça vous permet en fait directement de savoir ce qu'on est dans la hiérarchie des normes. Là, vous avez vos blocs, vous avez bien compris. Je vais le redire une fois pour qu'on ait la répétition qui aide un peu à l'apprentissage. Mais dans l'absolu, vous avez bien compris comment ça fonctionne. Donc, dans le bloc de constitutionnalité, vous avez le corps, la constitution, les articles de la constitution, plus le préambule, plus, vous vous souvenez, tout ce à quoi renvoie le préambule, la déclaration de 1789, la charte de l'environnement, le préambule de 1946, et avec lui, les principes fondamentaux, etc. Donc ça, c'est ce qui compose le bloc de conventionnalité. Ensuite, en dessous, on l'a dit, traités, accords internationaux, droit de l'Union européenne, droit du Conseil de l'Europe. Dans le bloc de légalité, l'ensemble des lois. Et dans le bloc réglementaire, les ordonnances non ratifiées, puisque vous vous souvenez que les ordonnances ratifiées, elles sont remontées dans le bloc de légalité. Donc les ordonnances non ratifiées, les décrets, les arrêtés, etc. Dans les actes administratifs résiduels, vous allez mettre notamment les circulaires et les actes administratifs indépendants. Oh, vous verrez ça en droit administratif l'année prochaine. Sachez seulement qu'il y a un dernier étage, mais c'est pas essentiel. Ok, ça c'est la théorie. Et la théorie, elle fonctionne très bien. Et elle nous permet effectivement d'avoir une vision un peu ordonnancée, ce qui suppose pour vous aussi, à chaque fois que vous avez une règle de droit à étudier, c'est d'avoir ce réflexe de voir dans quel casier vous la rangez. Voilà. À quel niveau de la pyramide elle se range. Qu'est-ce que vous avez sous les yeux? Parce que ça dit quelque chose de la coexistence avec les autres règles du coup aussi. Au-delà de ça, cet aspect théorique, évidemment, il est essentiel pour comprendre ce qui va suivre, mais à lui seul, il ne nous sert pas à grand-chose. En réalité, l'enjeu fondamental ici, c'est de savoir comment on la rend effective, cette hiérarchie des normes. On a dit donc que la norme inférieure, elle doit respecter, ne pas contredire la norme qui lui est supérieure, parce que la norme supérieure s'impose toujours à la norme inférieure, etc. Ça, c'est très joli en théorie, mais qu'est-ce que je fais si aujourd'hui, là, j'ai une loi qui est contraire à la Constitution? Voilà. Et donc, évidemment, en réalité, l'enjeu fondamental derrière l'étude de la hiérarchie des normes, c'est de voir comment on la rend effective en pratique. La théorie, elle est très jolie, mais à elle seule, elle ne sert à rien. Ce qui va nous intéresser, nous, et c'est, je vous dis, sans doute une des parties les plus techniques du cours. Pas forcément les plus compliquées, mais c'est technique. Il faut vous accrocher un peu. C'est, voilà, un truc à prendre. Vous aurez les schémas, encore une fois, à votre disposition. Je pense que ça aide un peu. Mais on va voir, en fait, tous les types de contrôles. C'est-à-dire, comment on s'assure, si on prend la pyramide générique, comment on s'assure que le bloc de constitutionnalité est respecté à la fois par le bloc de conventionnalité et par le bloc de légalité. Et ensuite, si je descends dans l'échelon, comment je m'assure que le bloc de conventionnalité est respecté par le bloc de légalité. Et puis, je descends encore dans l'échelon, comment je m'assure que le bloc de légalité est respecté par le bloc réglementaire. Voilà. Vous allez voir qu'il y a différentes typologies de contrôle avec des organes compétents ici ou là qui sont différents. Et c'est ça qu'on va étudier maintenant, donc dans un grand B, le contrôle de la hiérarchie des normes. Grand B, le contrôle de la hiérarchie des normes. Vous comprenez que c'est ces contrôles, encore une fois, qui vont garantir l'efficacité de la hiérarchie. À elle seule, elle ne veut rien dire. Elle n'est efficace que si elle est assortie d'instruments qui permettent d'en garantir l'effectivité. Et les différents types de contrôles, ils vont servir à ça. À donner des outils aux juristes pour s'assurer que si contrariété il y a, et encore une fois, hein, plus vous créez de règles et plus vous prenez le risque d'une contrariété. Là, aujourd'hui, on évolue dans des environnements avec des millions de règles existantes. Bon, ben, y a un risque qu'à un moment, quand on en a adopté une, on ne se soit pas rendu compte qu'on en avait une au-dessus qui disait le contraire. Donc c'est pour le coup là pas du tout théorique. Les hypothèses de contrariété, de conflit entre deux règles, elles sont fréquentes avec l'inflation législative. Donc, ce contrôle, on va l'envisager comme un contrôle qui permet de respecter le bloc de constitutionnalité, ce qu'on va appeler le contrôle de constitutionnalité, qui permet ensuite de respecter la primauté du bloc de conventionnalité, ce sera le contrôle de conventionnalité, et enfin le contrôle qui permet de s'assurer que le bloc de légalité est respecté par les blocs en dessous, et ce sera le contrôle de légalité. Chaque contrôle porte le nom du bloc protégé, voilà, du bloc supérieur. Donc le contrôle de constitutionnalité, c'est le contrôle dans lequel on s'assure que le bloc de constitutionnalité est respecté. Le contrôle de conventionnalité, c'est le contrôle où on s'assure que le bloc de conventionnalité est respecté. Et pareil pour le bloc de légalité. Vous allez voir, et ça peut être extrêmement agaçant pour certains. Ceci étant dit, je me réjouis quand même que l'amphi soit encore cette année plein. On est quand même au 4e cours sur 11. Donc accrochez-vous. Voilà. Parce que ça va très vite en fait. C'est une très bonne chose, je me réjouis que vous soyez tout ça, mais j'allais dire, je peux avoir conscience complètement du fait que le fait que je radote parfois soit un peu agaçant. Je vais vous dire les trucs que je vais redire, et puis une heure après je les redis, et puis c'est juste une vieille technique de la redondance dans l'apprentissage, c'est toujours hyper utile. Sur le moment ça vous gonfle, mais après vous vous souviendrez que je vous ai gonflé parce que ce truc-là je vous l'ai dit 10 fois, et donc il s'est imprimé dans votre tête. Donc je le fais exprès, j'ai conscience du fait que je me répète, mais généralement ça vous aide à apprendre. C'est une technique commune. Hein. Donc, on commence tout de suite avec le contrôle de constitutionnalité, et ce contrôle de constitutionnalité, il va se dédoubler en fait. Il a deux possibilités. D'abord, quand on évoque le contrôle de constitutionnalité, l'idée ça peut être de se dire, on va vérifier que les traités, le bloc de conventionnalité plus largement, est conforme au bloc de constitutionnalité. Donc si je reprends ma pyramide, là, on vérifie si on dit que le bloc de constitutionnalité c'est 1 et qu'on descend ensuite conventionnalité 2, etc. Dans le contrôle de la conformité des traités à la Constitution, on vérifie la conformité du bloc 2 au bloc 1. Et puis on aura aussi une autre hypothèse qui sera la conformité des lois à la Constitution, et dans ce cas-là, ce sera la conformité du bloc 3 au bloc 1. Donc on va voir ces deux types de contrôles. D'abord, conformité des conventions, des traités internationaux, du droit de l'Union, etc., à la Constitution, au bloc de constitutionnalité, donc 2 à l'égard de 1, et ensuite conformité de la loi à la Constitution, donc conformité de 3 à 1. Voilà. Dans les copies, évidemment, vous prenez les termes et vous ne chiffrez pas. Et pour apprendre, ce n'est pas inutile, parce que c'est pareil, ça systématise, en fait. Vous savez que vous descendez, vous remontez, comment s'opèrent les différents types de contrôles, ça peut vous être utile. Alors, d'abord un petit A, donc, sur la conformité des traités à la Constitution. La conformité des traités à la Constitution. Alors, il y a plusieurs choses à voir ici. Je traite ça et on fera la pause ensuite. Pendant longtemps, l'ordonnancement entre les deux, et donc le fait de reconnaître que le bloc de constitutionnalité primait sur le bloc de conventionnalité, ça a été discuté. Cette hiérarchie-là entre les deux, elle n'a pas été d'évidence. On s'est posé la question. Est-ce que c'est légitime, et les deux s'entendaient, hein, est-ce que c'est légitime de considérer que un bloc de droit interne, encore une fois, vous vous souvenez, hein, on retrouve là aussi ce que j'ai rabâché un peu, la Constitution, c'est une source de droit interne, national, alors que par définition, le bloc de conventionnalité, c'est international. Et donc on s'est dit, finalement, est-ce que la source internationale, elle n'aurait pas vocation à avoir plus de poids? Et on se posait la question, est-ce que c'est légitime qu'une source purement interne prime sur une source qui engage une pluralité d'États? Et en fait, on a fini par considérer qu'effectivement, il y avait bien une supériorité de la Constitution au sens large, c'est-à-dire du bloc de conventionnalité, sur les traités, sur le bloc de conventionnalité. La Constitution prime sur les traités. Le bloc de constitutionnalité prime sur le bloc de conventionnalité, et donc le bloc 1 prime sur le bloc 2. Voilà. Ça a été acquis finalement relativement récemment, hein, ces deux arrêts successifs. Un d'abord par le Conseil d'État, c'est le Conseil d'État qui commence cette reconnaissance, qui initie cette reconnaissance, et puis il est suivi 2 ans plus tard par la Cour de cassation. Donc c'est les arrêts que je vous ai mis sur les slides, hein. L'arrêt Sarran et Levaché de 98, rendu par le Conseil d'État, où donc pour la première fois, la juridiction suprême administrative, hein, vous vous souvenez des 2 ans, et la juridiction administrative vous dit, oui, sur la hiérarchie, la Constitution est au-dessus, et puis c'est suivi 2 ans après, par un arrêt rendu par la Cour de cassation en assemblée plénière, la formation supérieure, et c'est l'arrêt dit Mademoiselle Fraisse. Ces arrêts-là, vous les verrez en télé, vous les approfondirez en télé, c'est bien de savoir dès maintenant qu'ils existent, et donc quand vous allez les rencontrer dans vos fiches de télé, vous saurez que c'est lié à ça, c'est lié à cette question-là, c'est les 2 grands arrêts qui vous disent sur la hiérarchie, Constitution est au-dessus de traités, de lois, de conventionnalité. Comment est-ce que s'opère le contrôle? Il va falloir vérifier que le traité est conforme à la Constitution, au bloc de constitutionnalité. Et c'est le Conseil constitutionnel qui se charge de vérifier avant que le traité ne soit ratifié. Donc on est dans un contrôle a priori, en amont, avant la ratification du traité, avant son adoption, c'est lui qui vérifie qu'il est bien conforme à la Constitution. C'est l'article 54 de la Constitution, je vous le lis, ne le notez pas, vous irez le rechercher. Si le Conseil constitutionnel, saisi par le président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre des assemblées, ou par 60 députés ou 60 sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. Quand je vous dis le cours d'intro, il est cyclique et on retrouve des éléments qu'on a vus. Souvenez-vous, on en a déjà parlé. Je vous ai déjà expliqué cette hypothèse de gel du processus de ratification. On se met en pause et on décide. Est-ce qu'on poursuit le processus de ratification, auquel cas il faut modifier la Constitution via une loi constitutionnelle qu'on a évoquée aussi, ou est-ce qu'on ne veut pas modifier la Constitution? Dans ce cas-là, on renonce à la conclusion, à la ratification du traité. on avait expliqué aussi pourquoi il n'était pas possible d'envisager une suppression de la clause du traité qui posait problème, parce que par définition, ce sont des traités internationaux, et que donc si vous avez 30 États parties et que chaque État fait sauter une ou deux clauses, on s'en sort plus. Donc il y a évidemment des négociations, mais quand on arrive à un texte définitif et que ce texte coince par rapport à la Constitution, on n'a pas 36 solutions, soit on modifie notre ordre interne, donc la Constitution, soit on laisse passer et on ne ratifie pas le traité. C'est ce qui s'est passé pour le coup, on a dû modifier la Constitution quand on a adopté le traité de Lisbonne. Vous vous souvenez, le traité de Lisbonne, on en a parlé parmi les traités fondateurs de l'Union européenne, c'est le traité de 2007. Il a fallu une révision constitutionnelle, on retrouve donc nos lois constitutionnelles. Il y a eu une révision constitutionnelle le 4 février 2008 pour permettre justement la ratification du traité. Il est vrai, donc retenez simplement qu'il y a eu une révision constitutionnelle à propos de la ratification du traité de Lisbonne. C'est un des exemples, c'est pour vous dire juste que c'est arrivé relativement récemment, ça a moins de 20 ans, donc relativement récemment. Il est vrai que encore aujourd'hui, parfois, on s'interroge sur la réalité de cette primauté. Alors, en première année, retenez que le bloc de constitutionnalité est au-dessus du bloc de conventionnalité. Mais parfois, on se pose la question. Voilà. On se pose la question notamment parce que, c'est ce que je vous ai reproduit, vous avez un alinéa dans le préambule de la Constitution de 1946, préambule dont vous savez qu'il a valeur constitutionnelle parce qu'on en a parlé avant, qui vous dit « La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. » Et donc certains lisent dans cet alinéa-là l'idée que si on se conforme, si la République française se conforme, alors ce serait que la Constitution est finalement tenue de se conformer au bloc de conventionnalité, et donc qu'elle ne lui est pas supérieure, mais qu'elle lui est inférieure. Alors, le Conseil constitutionnel, en 2007, toujours à propos de la décision sur le traité de Lisbonne, a bien confirmé que la Constitution était au-dessus, donc, en droit positif aujourd'hui, le bloc de constitutionnalité est bien au-dessus du bloc de conventionnalité, mais sachez quand même que parfois on se pose encore la question. Quand je vous disais à propos des deux arrêts, Sarran et Levaché et Mademoiselle Fraisse, que finalement c'est l'apparition relativement récente, la consécration de la supériorité de la Constitution sur les traités, et qu'on s'est posé la question longtemps, bah en fait la question continue, certains auteurs en tout cas, continuent un peu à se la poser, et c'est vrai que les arguments sont audibles. C'est pas absurde. L'alinéa 14 de la Constitution de 1946, du préambule de la Constitution de 1946, effectivement, il aurait tendance à pouvoir donner un indice de la supériorité des traités sur la Constitution. C'est pas le cas. Et comme ça, si vous tombez sur un auteur qui a une position plus minoritaire et qui consiste à regarder les traités comme au-dessus de la Constitution, vous saurez que ça existe. Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusque-là? Ça va? Et donc il faut revenir évidemment, après je m'arrête, hein, mais il faut revenir à la compétence du Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui, en fait, on va le voir, est compétent aussi pour la conformité de la loi à l'égard de la Constitution. Dès que ça touche à la question de est-ce que c'est conforme au bloc de constitutionnalité, ben, comme son nom l'indique, en fait, la juridiction compétente, c'est le Conseil constitutionnel. Voilà. S'il s'agit de vérifier la conformité d'une règle à la Constitution, au bloc de constitutionnalité, alors l'organe compétent, c'est le Conseil qui est là pour ça, c'est le Conseil constitutionnel. On fait une pause 10 minutes et on reprend.